Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le rebond de l'épidémie de Covid-19 se confirme en France. Plus de 3000 nouveaux cas depuis hier. Le gouvernement veut renforcer la surveillance des foyers de contamination en entreprise. Les explications de Catherine Pétillon dans un instant. Sur fond de pandémie, l'OMS annonce une bonne nouvelle. La polio est officiellement éradiquée en Afrique. Reportage au Nigeria où les derniers cas de polio ont été recensés en 2016. Aux États-Unis, la convention républicaine a officiellement choisi Donald Trump pour candidat à la Maison-Blanche. L'occasion de découvrir quelques personnages hauts en couleur de la galaxie trumpienne. Le reportage à suivre de Grégory Phillips. Invité de ce journal, le chanteur franco-libanais Cyril Mokayesh. Nous évoquerons avec lui la solidarité des artistes après la catastrophe de Beyrouth le 4 août dernier. Les indicateurs de la Covid-19 ne sont pas bons ce soir en France. Il y a eu plus de 3300 nouvelles contaminations dans les dernières 24 heures, alors que ce chiffre était inférieur à 2000 hier. Le nombre de patients en réanimation est aussi reparti à la hausse, 410 aujourd'hui, 11 de plus que la veille selon le dernier bilan de Santé publique France. Ce rebond de l'épidémie incite le gouvernement à améliorer le suivi des foyers des cas groupés, les fameux clusters. Catherine Pétillon, il s'agit notamment d'éviter une flambée de nouveaux cas en entreprise.
Eh bien, c'est tout l'enjeu. En présentant la nouvelle version du protocole sanitaire, le ministère du Travail a dit vouloir proposer des mesures adaptées à certains secteurs et filières, si dans le cas des abattoirs. Or, pour cela, encore faut-il identifier les conditions de travail spécifiques, puis investiguer sur d'éventuels liens avec la maladie. En somme, la construction d'indicateurs répond aujourd'hui à deux enjeux. L'objectif premier de Santé publique reste de repérer les situations à risque et de briser les chaînes de transmission de la maladie. Autrement dit, d'enclencher au bon endroit et au bon moment la règle tester, tracer, isoler. Ensuite, du point de vue de la santé au travail, proposer des actions spécifiques requiert de connaître les activités précises des malades. Dans un abattoir, découper de la viande ou être au standard, ce n'est pas la même chose. Or cela, les indicateurs actuels ne nous le disent pas. Au ministère, on le reconnaît, il faut encore améliorer les croisements de données et les conditions de collaboration des services de santé et du travail. Mais c'est aussi dans la capacité à aller investiguer dans les entreprises et collectivités concernées que dépendra notre connaissance des clusters au travail.
Catherine Pétillon, autre motif d'inquiétude sur le front de l'épidémie, la rentrée des classes mardi prochain 1er septembre. Le SNUIPP, premier syndicat d'enseignement du primaire, réclame le renforcement du protocole sanitaire qui encadre l'accueil des élèves. À Kinkasmi, le syndicat veut de nouvelles mesures pour la gestion des cantines et des récréations.
La circulation dans les lieux communs et le mélange des élèves, notamment pendant la récréation, la cantine ou encore les activités sportives telles que la piscine, sont un véritable casse-tête pour les directeurs d'école et les enseignants, car c'est là que les risques de contamination sont encore plus grands pour Guylaine David, la nouvelle porte-parole du SNUPP, principal syndicat du primaire. Il est donc impératif d'éviter le brassage entre les élèves, ce que ne prévoit pas pour l'instant le protocole sanitaire du ministère de l'Éducation nationale.
Pour éviter d'avoir des contagions au sein même de l'école, il faut absolument que les groupes ne puissent pas se rencontrer et que l'on puisse, lorsqu'il y aura un cas de Covid dans une classe, pouvoir limiter l'école à cette classe, c'est-à-dire que fermer une classe et pas l'école en entier et qu'on soit sur des conditions qui permettent ça.
Autre inquiétude, le port du masque. S'il sera bien obligatoire à partir de 11 ans au collège et au lycée et à la charge des élèves, d'ailleurs certaines régions comme les Hauts-de-France par exemple ou l'Île-de-France ont déjà prévu qu'ils offriraient le masque aux élèves, ce n'est pas encore le cas en maternelle, où le port du masque ne sera pas obligatoire pour les adultes, ce que dénonce là aussi Guylaine David.
Pour le moment, il est seulement recommandé pour les enseignants de maternelle, il n'est pas obligatoire. On sait que dans les écoles maternelles, nous avons beaucoup de personnel et il faut absolument que ces enseignants, ces personnels puissent porter le masque pour que l'on évite aussi des contaminations entre adultes.
Enfin, ce qui concerne les personnels fragiles de l'éducation nationale, pour l'instant, le ministère a juste prévu de leur fournir des masques chirurgicaux de type FFP2 qui sont exactement les mêmes que ceux qu'ont les personnels médicaux. Jean-Michel Blanquer, qui doit organiser demain après-midi sa conférence de presse de rentrée, apportera peut-être plus de précisions issues du Conseil de défense qui se tenait aujourd'hui à l'Élysée.
Hakim Kasmi, merci. Effectivement, Emmanuel Macron a présidé ce matin un Conseil de défense exclusivement consacré à la crise sanitaire. Rien n'a filtré officiellement de ce conseil. Mais selon une source proche de l'exécutif citée par l'AFP, le gouvernement ne distribuera pas de masques à la population. Et puis ce soir, on apprend que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur annonce le renforcement des mesures de lutte contre la Covid-19 avec l'obligation du port du masque dans tout Marseille. Il annonce aussi la fermeture des bars et restaurants à 23h dans toutes les Bouches-du-Rhône. Ces mesures entreront en application à partir de demain mercredi. Alors que le nouveau coronavirus continue à se propager dans le monde entier, il existe des maladies qui finissent par disparaître. C'est le cas de la poliomyélite, si l'on en croit l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS a annoncé aujourd'hui que le poliovirus sauvage avait été éradiqué sur le continent africain. Cette maladie infectieuse et contagieuse s'attaque à la moelle épinière. Elle peut entraîner une paralysie totale. Mais en Afrique, la polio a donc disparu. Les derniers cas connus avaient été découverts au Nigeria. Le reportage à Lagos de Lisa Fabian.
Cela fait 4 ans qu'aucun nouveau cas de poliomyélite infectieuse n'a été recensé au Nigeria. Les affrontements entre l'armée et le groupe islamiste Boko Haram dans le nord-est du pays rendaient difficile la vaccination des populations isolées. Le docteur Anissour Sidik, spécialiste de la poliomyélite pour l'UNICEF.
It has been a tough journey.
Ça a été un long parcours. Nous avons très vite collaboré avec l'armée nigériane pour garantir la vaccination. Dès que l'armée libérait un terroriste des mains des insurgés de Boko Haram, les enfants sur place étaient vaccinés. On s'est aussi associé à des compagnies aériennes pour repérer les mouvements de population par image satellite.
Dans le nord du Nigeria, les campagnes anti-polio étaient déjà compliquées par des rumeurs et des préjugés sur ce vaccin, accusé d'être un moyen de contrôle des naissances dans la population musulmane. L'éradication de la maladie est donc une victoire attendue de longue date, selon le docteur Sidik.
Les infrastructures dédiées à la poliomyélite vont pouvoir être transformées en centres de soins et les leçons que nous avons tirées de ce plan d'éradication de la polio vont servir pour éliminer d'autres maladies.
L'Afghanistan et le Pakistan sont désormais les deux seuls pays au monde à recenser encore des contaminations par le poliovirus sauvage.
Lisa Fabian, correspondante à Lagos, la capitale économique du Nigeria. Depuis hier soir, Donald Trump est officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle américaine du 3 novembre prochain. Simple formalité pour le président sortant, qui n'avait aucun rival dans son camp. Mais cette première soirée de la convention républicaine a permis de découvrir quelques personnages typiques de la galaxie Trump, comme par exemple la belle-fille du président, Kimberly Guilfoyle. Son discours particulièrement musclé a marqué les esprits, Grégory Phillips.
À 51 ans, Kimberly Guilfoyle est l'une des responsables du financement de la campagne Trump 2020. Née d'une mère portoricaine et d'un père irlandais, elle a derrière elle plusieurs vies. Elle fut l'épouse de l'actuel gouverneur démocrate de Californie, puis présentatrice sur Fox News, notamment de l'émission mythique The Five. Elle est aujourd'hui la petite amie du fils aîné du président, Donald Trump Jr. Et hier soir, Guilfoyle a prononcé un discours enflammé, dénonçant ces démocrates qui veulent faire des Américains les esclaves de l'idéologie gauchiste. Rarement on aura vu une oratrice aussi passionnée, hurlant la fin de son discours devant un auditorium vide, épidémie oblige. Des internautes se sont amusés à mixer le même discours.
Don't let them step on you. Don't let them destroy your families, your lives and your future.
Avec de la musique de propagande nord-coréenne. Hier soir, on a pu découvrir aussi, ou redécouvrir, Mark et Patricia McCloskey.
From St. Louis, Missouri.
Ce couple de Saint-Louis, Missouri, photographié en juin dernier, arme à la main, devant son domicile et menaçant des manifestants Black Lives Matter. D'autres personnages atypiques sont aussi programmés, comme cette ancienne salariée du planning familial américain, devenue en quelques mois l'égérie du mouvement anti-avortement.
Grégory Phillips, notre correspondant aux États-Unis. La deuxième soirée de la convention républicaine sera marquée tout à l'heure par le discours de la First Lady, Melania Trump. Quand les artistes se mobilisent pour le Liban, meurtri par l'explosion du port de Beyrouth le 4 août dernier, le chanteur Mika, né dans la capitale libanaise, organisera un concert virtuel au profit des victimes le 19 septembre. France Télévisions promet aussi un grand concert de soutien à la fin du mois, avec des artistes français et libanais comme Bernard Lavillier ou Ibrahim Malouf. Concert auquel participera l'invité de ce journal, le chanteur franco-libanais Cyril Mokayesh. Bonsoir.
Bonsoir.
Cyril Mokayesh, vous êtes d'origine libanaise par votre père. Votre dernier album s'appelle Paris-Beyrouth. Et aujourd'hui, vous faites donc partie de ces artistes qui se mobilisent pour le Liban après le drame du 4 août. C'est important, cette mobilisation collective ?
Oui, on a envie. Alors, on est passé par plusieurs états émotionnels. D'abord, le choc. Ça faisait un petit moment déjà qu'on s'habituait au chaos ambiant. On s'habitue jamais au chaos, mais en tout cas, moi, j'en étais spectateur de Paris. Et puis, l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à Beyrouth, donc j'ai vu les choses évoluer. Cette révolution au mois d'octobre, et puis cette crise financière, économique, bancaire, qui se termine par une explosion, comme une métaphore d'une explosion qui devait avoir lieu, parce que les choses étaient impossibles autrement, on pourrait croire ça. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard, il y a une classe politique qui prend pas soin de son peuple depuis des années maintenant, et être libanais, c'est être spectateur de ça, même si moi je suis qu'à moitié libanais, il y a quelque chose en nous qui a envie de se mobiliser, évidemment, d'appeler au secours, de voir comment on peut redonner un tout petit peu de lumière. Alors chacun à sa mesure, parce qu'on sait bien qu'on n'est pas grand chose, mais si on peut faire quelque chose, évidemment, j'ai qu'une envie en ce moment, c'est de m'impliquer.
Pourquoi vous dites que l'explosion du 4 août n'est pas un hasard ?
Bah, quand il y a une telle ingérence de la classe politique, nous on n'est pas habitué à ça, parce qu'on a forcément des réflexes de contestation. Il y a de l'injustice en France et on est dans un pays qui est vite debout, qui est vite dans la rue pour exprimer son mécontentement, et les choses parfois évoluent assez rapidement parce qu'on vit dans une démocratie. Là, pour le coup, je le dis haut et fort. Là-bas, ça n'est pas du tout le cas. Ce sont des confessions religieuses qui dirigent chaque... C'est un pays avec, vous le savez...
Multiconfessionnel.
Multiconfessionnel, mais où la politique est liée à la religion. Et depuis la guerre civile, les chefs religieux se sont distribués la part du gâteau et sans jamais prendre soin de son peuple. Donc ça crée des injustices terribles, des caisses de trésors publics qui sont vides, des gens, des fortunes qui disparaissent, des gens qui payent pas leurs impôts, des gens qui se font élire. Et là, on le voit avec cette explosion, ces 4500 tonnes qui sont sur le port, qui représentent un danger pour la population, bien évidemment, mais qui faisaient les affaires de certains, puisque forcément, tout cet explosif était voué à être vendu, à être marchandé.
À qui vous pensez quand vous évoquez la responsabilité de certains ? Est-ce que vous mettez en cause certains chefs religieux, par exemple ?
Je suis pas enquêteur et je pourrais pas savoir, mais en l'occurrence, je veux dire, quand on est là-bas, quand moi j'y ai vécu l'année dernière, on le ressent en discutant avec les gens, c'est ouvertement dit, si vous voulez, que la justice n'existe pas, que la politique et tous les gens parlent de corruption toute la journée et ils se sont malheureusement habitués à vivre avec ça, ce qui pour nous est un choc, mais eux ils ont fini par s'habituer au pire. Et c'est d'où cette prise de conscience au mois d'octobre, cette jeunesse qui veut que la classe politique, qui demande un avenir avec les mains propres, mais on a tiré tellement fort sur la corde, on arrive à ce genre de catastrophe qui était évidemment imprévisible, mais qui correspond à un état de laxisme et pire, de corruption.
Est-ce que le Liban a besoin de la France pour se sortir de cette situation ?
Moi je crois, je le dirais pas si je sentais pas cette bienveillance des deux côtés, et mieux que ça même, je sens une vraie histoire passée et à construire encore, je sens un vrai lien quand on monte dans une voiture, un chauffeur de taxi et qu'on lui dit qu'on est français, il y a tout de suite un très grand sourire, une très grande bienveillance, et je pense que voilà, même si le Liban a été un mandat français, une grande différence entre coloniser et mandater, c'est-à-dire aider à l'émancipation d'un pays, lui donner des ailes et voilà, je pense que je crois que c'est Amin Malouf, j'ai lu dernièrement sa réaction par rapport à la situation, et je vais le reprendre quoi, en disant que avant même de penser à un nouveau gouvernement libanais, avant même de tout reconstruire, il faut reconstruire les routes, il faut s'occuper du problème des ordures, il faut recréer un système éducatif, il faut recréer un hôpital, et tout ça le Liban, je pense, peut compter sur la France, en tout cas je l'espère. Pourtant, avant même de créer des élections et après d'avoir un gouvernement, un président qui soit digne de la fonction. Mais là, si on prend les choses dans l'autre sens, si on commence par élire un président, un gouvernement et qu'on compte sur eux pour remettre tout ça sur pied, J'ai peur qu'on tourne en rond.
Cyril Mokayesh, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle le titre de votre dernier album, Paris-Beyrouth, sorti en février. Et je précise aussi que vous serez en concert pour le Liban dès le 11 septembre prochain à la Bellevilloise à Paris, à l'initiative du Secours Populaire. Un mot du temps, demain, du soleil sur une grande partie du pays, mais quelques gouttes seront possibles du sud-ouest aux côtes de la Manche. Les températures minimales iront de 14 à 23 degrés du nord au sud. Les maximales évolueront entre 19 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.